terroriste il y a 10 jours. 10h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Merci d'être avec nous. La dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Mobiliser la jeunesse de la société civile du Mali. L'objectif des manifestants réunis hier à Bamako, des jeunes leaders politiques qui entendent se battre contre une éventuelle dissolution des partis par la junte malienne. La RDC, dans ce journal, on évoque la venue de Maxime Prévot, le chef de la diplomatie belge. La RDC, où les partisans de l'EPR de Moïse Katumbi dénoncent une manœuvre d'intimidation des hommes en armes, se trouve sur sa ferme non loin de Lubumbashi depuis 3 jours. Une entente de l'opposition bissao-guinéenne après 3 jours d'entretien à Paris. Elle se mobilise contre ce qu'elle considère comme une prolongation du mandat d'Oumaro Sissoko Embalo à quelques mois maintenant de la présidentielle. Et puis nous sommes dans le nord du Bénin. Le grand départ du Tour cycliste, c'est ce lundi. La seule compétition d'Afrique de l'Ouest estampillée Union Cycliste Internationale. 80 coureurs au départ et 120 km entre Niki et Parakou pour démarrer. Olivier Pron est déjà sur la ligne d'arrivée. Une manifestation à Bamako hier a donc réuni des jeunes leaders politiques et de la société civile. Ils en ont profité pour rendre public un manifeste dans le but de rassembler des dizaines de partis contre une potentielle dissolution des formations politiques par la junte malienne au pouvoir. Plus de détails dans la correspondance régionale de Serge Daniel.
Les initiateurs du manifeste sont des jeunes issus de la classe politique malienne et de la société civile. Aux côtés de responsables de plusieurs dizaines de partis politiques, ils entendent mobiliser la jeunesse de la société civile de leur pays, objectif ratisser large pour défendre, disent-ils, face à la junte, les libertés fondamentales. Amidou Doumbouya, l'un des jeunes signataires du manifeste.
En fait, nous avons décidé quand même, en tant que jeunes politiques, en tant qu'avenir du pays, à réaffirmer notre volonté et notre attachement à la pluralité politique, à la démocratie, à la liberté d'expression et au jeu démocratique comme cela doit se faire dans notre pays, comme cela a été toujours le cas.
Le débat du jour est celui de la possible dissolution des partis politiques par la junte. Le nouveau regroupement des jeunes est absolument contre. Et pour se faire entendre, il va mobiliser du nord au sud, de l'est à l'ouest, non seulement pour défendre le multipartisme, mais pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pour ces jeunes leaders, pas question de laisser le terrain à, je cite, un groupuscule de jeunes à la solde de la junte. Fin de citation. Ces derniers ont entamé une campagne pour appeler à dissoudre les partis politiques, probablement avec le soutien des autorités maliennes. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Maxime Prévot est en République démocratique du Congo, je vous le disais en titre. Après l'Ouganda et le Burundi, le ministre belge des Affaires étrangères est arrivé dans le pays hier. Bruxelles réitère sa demande de respect absolu de l'intégrité territoriale de chaque État et la fin des soutiens étrangers aux groupes armés. Le chef de la diplomatie belge qui doit rencontrer Félix Tshisekedi, le président congolais, ce lundi. La RDC encore et l'entourage de l'opposant Moïse Katumbi qui dénonce une manœuvre d'intimidation. 3 jours désormais que des hommes en armes occupe sa ferme en périphérie de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Des proches qui assurent qu'aucune violence n'a eu lieu, certes, mais que ces hommes n'ont pas non plus présenté de documents officiels pour justifier leur présence. La réaction d'Hervé Diakiesse, porte-parole du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi.
Nous assistons à un acte arbitraire, c'est que des individus sans titre ni droit ont envahi la ferme Futuka de Moïse Katumbi, où il y entretient beaucoup d'activités agropastorales et où héberger aussi l'école de formation de jeunes de l'équipe de Mazembe. Ces individus s'y sont installés sur les lieux et n'ont produit aucun document juridique justifiant cette violation de domicile. Et actuellement, il est très clair que le régime a tenté son histoire de débauchage via le pseudo-gouvernement d'Union nationale, alors que les enjeux sont des lois beaucoup plus graves et que Moïse Katumbi a adhéré très clairement à l'initiative des évêques de la Cinco et de l'ECC. Moïse Katumbi est un homme de paix, c'est pas un homme de violence, et il n'empêche qu'il faut aussi reconnaître que ce régime est en train de mener une sorte de manœuvre d'intimidation.
Le porte-parole du parti Ensemble pour la République, Hervé Diakhiessé, il était avec Patien Ligaudy. Eux étaient réunis à Paris. 6 leaders de l'opposition bissau-guinéenne ont discuté des mots qui minent leur pays dans la capitale française. Avant de trouver un accord politique à quelques mois de la présidentielle de novembre, l'objectif était surtout de montrer à la communauté internationale une opposition unie qui transgresse les logiques partisanes. Ils sont en tout cas d'accord sur une chose, que le mandat du président Umaro Sissoko Embalo s'est achevé en février dernier. Je vous propose d'écouter Flavio Batica Ferreira, député du PAIGC. Selon lui, ce dialogue devrait permettre de prévenir les dangers qui, selon lui, menacent la démocratie bissau-guinéenne.
Le mandat du président de la République est terminé, donc il n'est plus légitime. L'Assemblée nationale ne fonctionne pas. Le tribunal suprême de justice n'a pas de président. La CNE est caduque depuis 3 ans. D'abord, il faut régler ce problème-là avant de penser réellement aux élections. Parce que si on part aux élections aujourd'hui telles que la Cour suprême est, telles que la CNE est, il n'y aura pas des élections libres, justes et transparentes. Une fois réglé ce problème-là, c'est là qu'on passera pour discuter le problème des élections présidentielles et législatives. Bien sûr qu'on en a parlé, mais c'est pas ça la base de nos discussions. Nos discussions aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la communauté internationale nous aide dans ça? Si c'est pas le cas, nous, au niveau interne, pour qu'on puisse faire quelque chose. On est sorti avec un accord, avec un plan d'action que je ne pourrais pas vous dévoiler. Et une chose est sûre, c'est que on est tous d'accord de faire quelque chose pour que on puisse changer la donne en Guinée-Bissau actuellement.
Flavio Batica Ferreira avec Paul Lorgerie. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé reste pour l'heure écarté de la course à la présidentielle. En fin de semaine dernière, le tribunal de Gagnoa a rejeté la demande d'un militant du COGEP qui souhaitait sa réinscription sur les listes électorales. L'ancien de la ministre de la Jeunesse est inéligible depuis 2019 et une condamnation par contumace. Son parti, le COGEP, réclame désormais l'adoption d'une loi d'amnistie. Je vous propose d'écouter Serge Ouraga, le porte-parole.
Nous nous attendions à ce que la justice ivoirienne répare une erreur, une injustice qu'elle-même a causée. Malheureusement, elle a raté le coche. La contumace implique que l'accusé ne soit pas présent et qu'on ne sache pas là où il est. Mais dans le cas du président Charles Blé Goudé, c'est bien la justice de Côte d'Ivoire qui l'a envoyé à La Haye. Il y était pour subir un procès. Dans le même temps, on ne peut pas chercher le président Charles Blé Goudé ici à Abidjan et sur ce fondement, sur ce prétexte fallacieux, organiser un procès en catimini et le condamner en son absence alors que il venait à peine d'être acquitté par la Cour pénale internationale. Nous pensons que le pouvoir RHDP est dans une logique d'exclusion méthodique et systématique des opposants politiques à l'élection présidentielle de 2025. Nous espérons que le pouvoir RHDP revienne à la raison, à la table de discussion, pour que nous puissions ensemble régler ces problèmes et surtout pour que nous puissions permettre à l'ensemble des Ivoiriens de choisir ce qu'ils veulent à la tête de ce pays.
Serge Ouraga, porte-parole du COGEP, avec notre correspondant à Abidjan, Abdoulaziz Diallo. Et puis du cyclisme pour refermer ce journal, avec la seule compétition d'Afrique de l'Ouest estampillée UCI, c'est-à-dire qui a le label de l'Union Cycliste Internationale. Le Tour du Bénin, 20e édition, plus de 80 coureurs vont s'élancer pour une semaine de compétition. 14 équipes sont au départ de Niki dans le Nord, dont 11 africaines. Olivier Pron, lui aussi, est sur place.
Tu vas faire maximum de bruit, parce que nous allons
les Béninois ambiancés chez eux à Parakou à la veille du départ de leur tour. Ils n'y ont encore jamais brillé, mais la compétition sur tout le continent est cochée dans le calendrier par tous les coureurs de la sous-région et d'ailleurs. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et récemment le Burkina Faso ont perdu le précieux label UCI quand le Bénin, lui, l'a acquis. Salami Avossetien, l'un des entraîneurs des Guépards à vélo, est fier mais s'inquiète.
Oui, on doit être très très inquiet par rapport à ça parce que nous sommes à l'approche des championnats du monde au Rwanda et il nous faut quand même des points pour qualifier nos coureurs pour le championnat du monde. Donc si nous, on avait beaucoup de courses UCI en Afrique de l'Ouest, on pouvait gagner des points et facilement qualifier nos coureurs.
Des points précieux à gagner donc pour les coureurs, mais pour obtenir le sésame UCI, le calendrier des charges est féroce en termes d'organisation, de logement, de sécurité, de santé. Il a donc un coût, Emilien Weto, vice-président de la Fédération Togolaise.
Est-ce que c'est le cycliste qui va moins bien? Non, je crois que les financements, les aides sont en regret. Dès que ça va vraiment recommencer, la volonté de toute la fédération, c'est d'intégrer l'UCI. Hein. Si quelqu'un n'y va pas, sûrement qu'il y a un petit problème. Mais nous, particulièrement, nous faisons l'effort. Souvent, c'est les conditions aussi qui dérangent un peu.
Des conditions que le Togo dit vouloir remplir d'ici un an. Olivier Pron, Parakou, RFI.
Une première étape longue de 120 km entre Niki et Parakou. Et à noter ce petit exploit pour le cyclisme africain. Hier, la première victoire pour une Africaine sur un monument de la discipline. La Mauricienne Kim Lecourte s'est imposée sur Liège-Bastogne-Liège. Victoire historique donc chez les hommes, l'immense favori. Le champion du monde slovène Tadej Pogacar a écrasé la course. C'est à vous, Juan.
Merci les mots en piste.